Un jour, vous vous êtes décidé peut-être à lire toute la Bible, ou un ami vous a donné une Bible pour la première fois et vous ne connaissiez pas. Alors vous vous dites, oui, je devrais lire ce livre. Alors vous avez commencé à lire la Bible, vous avez commencé au commencement avec le livre de la Genèse. Et là, vous avez découvert Adam et Ève, le jardin d'Éden, l'arche de Noé, l'histoire de Joseph. Tout ça vous a plu. Et puis Exode, et là c'était sympa, la sortie d'Égypte, ça vous connaissez un peu, le prince d'Égypte, les plaies. Voilà, donc cette Bible vous paraît intéressante. Et puis, livre suivant, Lévitique. Et là, vous vous êtes arrêté. Lévitique, ce livre est bizarre. Vous avez peut-être franchi quelques chapitres, mais après, vous êtes troublé. Ou bien si vous suivez un plan de lecture qui vous fait lire la Bible, toute la Bible dans un an, que je vous conseille fortement de faire, eh bien, vous êtes arrivé ces jours-ci, en tout cas d'après le plan que j'ai l'habitude de suivre, le 21 février, vous arrivez au livre du Lévitique. Et là, vous êtes fortement tenté à abandonner votre plan de lecture annuel. Mais il ne faut pas s'arrêter au Lévitique. J'ai une nouvelle appréciation pour Lévitique. Le Lévitique, c'est vraiment un sommet de la Bible. En tout cas, c'est un sommet des premiers cinq livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, les premiers cinq livres qui sont très importants, déjà dans la religion juive, mais aussi pour nous, les livres de Moïse. Et le Lévitique, c'est vraiment un sommet. C'est celui au milieu, deux livres avant, deux livres après. Et il faut savoir que les deux livres avant, Genèse et Exode, racontent comment Dieu a créé le monde, mais aussi comment il a fait naître un peuple. Et puis ce peuple, il les a fait remonter d'Égypte pour les conduire jusqu'à la montagne de Sinaï. Et là, sur cette montagne, à Sinaï, ils ont fait cette grande rencontre avec Dieu, ces moments clés qui leur ont donné une identité, qui ont fait d'eux le peuple de Dieu. Et puis, ça, c'était Genèse, Exode, et puis Lévitique que nous étudions. Et après Lévitique, il y a Nombre et Deutéronome. Nombre, c'est le départ de la montagne, c'est la descente de la montagne. Il faut savoir qu'il y a aussi un déclin, il y a beaucoup de rébellions dans l'histoire de Nombre. Le peuple déjà s'éloigne beaucoup de Dieu, refuse d'entrer dans le pays promis. Et Moïse va mourir en Deutéronome en disant, je sais que vous allez vous éloigner de Dieu. Donc, déjà dans les premiers cinq livres de la Bible, Lévitique représente ce moment sur Sinaï, à la présence de Dieu, un sommet des premiers cinq livres de la Bible. Donc c'est vraiment un sommet au sens littéral, au sens géographique, mais aussi au sens littéraire, au sens spirituel pour le peuple de Dieu. Le livre lui-même est organisé de manière très intéressante, un peu comme une montagne. Pour nous aider à comprendre, il y a sept parties assez claires du livre qui sont regroupées ainsi, comme vous voyez sur l'image. Le livre commence avec des rites du culte, notamment les offrandes, et le livre termine avec d'autres rites du culte, notamment les fêtes de l'Éternel, les manières que l'adorateur s'approche de Dieu par les vœux et par les pratiques rituelles. Et puis, après les rites, il y a des parties qui concernent les sacrificateurs, ce que nous allons étudier ce matin, mais notamment les chapitres 8 à 10, et puis on revient dans les chapitres 21 et 22. Et puis après ça, il y a notamment des lois de pureté. En chapitre 11 à 15, c'est la loi de pureté rituelle que nous allons étudier, et puis chapitre 17 à 20, des lois de pureté morale. Et au sommet du livre, au centre du livre, il y a le chapitre 16 qui raconte le jour des expiations. C'est le plus grand jour parmi le peuple juif. C'est la fête annuelle des expiations. C'est très très important dans leur calendrier. Et Dieu a fait exprès, il a mis au cœur, au sommet de ce livre. Mais ce matin, nous allons regarder surtout les chapitres 8 et 9 sur les sacrificateurs. Déjà, tous les chants et le moment de Sainte-Cène que nous avons pris ensemble nous ont déjà fait méditer sur le rôle du souverain sacrificateur. Mais pour ne pas paniquer devant Lévitique, comme vous le disiez Lévitique, pensez aux règles d'un jeu de société. Quand vous recevez un nouveau jeu de société, vous ouvrez la boîte, vous sortez le carnet, les règles du jeu, les instructions. Et si vous n'avez pas encore joué, vous pouvez être un peu intimidé par toutes les règles, surtout si c'est un jeu complexe. Le carnet donne le contenu des jeux, tant de cartes, tant de pions, le plateau. Après, il y a des instructions, que faire pour chaque tour, chaque joueur. Comment disposer le plateau. Et si vous ne connaissez pas le jeu, des fois vous êtes perdu et même ça enlève l'envie de jouer. Mais si vous jouez avec des amis qui connaissent déjà et qui vous aident à rencontrer le jeu, déjà c'est mieux. Mais rien ne vaut que jouer une partie pour comprendre les règles d'un jeu. Des fois le carnet des instructions, il est un peu lourd, mais une fois qu'on se met à jouer, on y prend plaisir. Eh bien, ce matin, dans les chapitres 8 et 9 de Lévitique, nous avons la mise en pratique. On passe à l'action. Et ce matin, nous allons assister ensemble avec Moïse et son frère et les Juifs. Nous allons assister au premier culte lévitique. Les chapitres 8 et 9, c'est l'inauguration des sacrificateurs et puis le culte inaugural. Ils viennent de terminer la construction du tabernacle et maintenant ça va être l'inauguration. Ça nous fait des souvenirs nous-mêmes. Il y a 5 ans, on vivait l'inauguration de ce bâtiment. C'était un grand moment. Eh bien, en chapitre 8 et 9, c'est l'inauguration du culte lévitique. Et on a eu des règles, il y a eu pas mal de choses. Peut-être les chapitres 1 à 7 ne sont pas faciles à décortiquer des fois. Mais là, nous allons voir comment ils vont réellement faire et vivre les prescriptions de Dieu. Et ça va être intéressant. Et nous allons voir pourquoi Dieu a institué notamment son rôle de sacrificateur. Et nous allons découvrir que pour venir dans la présence de Dieu, pour demeurer avec lui, il nous faut en effet un représentant, il nous faut un médiateur, il nous faut un sacrificateur. Alors ce matin, j'aimerais voir déjà avec vous chapitre 8 et puis chapitre 9. Chapitre 8, c'est la consécration ou l'ordination des sacrificateurs, l'inauguration de cet office. Et je pense que la leçon, c'est de montrer à quel point Dieu est à part. Dieu est séparé de Dieu, Dieu est différent. Il va falloir qu'il y ait un représentant qui nous représente pour aller vers lui. Et le chapitre 9, c'est l'inauguration du culte, le premier culte lévitique. Et là, nous allons voir à quel point Dieu veut être proche. Et on va essayer de réconcilier à quel point Dieu est vraiment à part et à quel point Dieu veut être proche. Et le sacrificateur, le rôle du sacrificateur, va nous aider à vivre cela. Tout d'abord, je vous invite à regarder avec moi chapitre 8. Et nous allons faire, on ne va pas tout lire, je vous propose de lire les premiers versets. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est le jour de l'entrée en fonction des sacrificateurs. Lévitique chapitre 8, versets 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers, le corbeil des pains sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de rencontre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit approcher Aaron et ses fils, il les lava avec de l'eau, il mit à Aaron la tunique, il se le saignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, il joignit au pectoral l'urim et le thummim, il posa la tiare sur sa tête, il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il loignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, il loignit l'autel et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et loignit afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures, il leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nous allons nous arrêter là, mais la cérémonie continue avec plusieurs étapes. Donc là, c'est Aaron et ses fils vont entrer en fonction, vont être consacrés, vont vivre cette ordination en tant que pour être sacrificateur. C'est Moïse qui va présider cette cérémonie. Moïse, jusque-là, il faisait un peu tout. Il était libérateur, il était législateur, il était scribe, il était général des armées, il était juge, il était médiateur, il était prophète, il était porte-parole, il était beaucoup de choses, Moïse, en tant que ce pionnier qui amène son peuple. Mais maintenant, il va mettre en place le fonctionnement normal et donc il va déléguer les rôles, notamment le rôle du médiateur, du sacrificateur. Et donc ce jour-là, Aaron, son frère, sera le premier. Après, ce sera de génération en génération. Donc ce jour-là, Aaron entre en fonction. Il est consacré. Et cette consécration, cette cérémonie, est clairement présentée en 7 étapes. Et chaque fois, la phrase revient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le 7 est un chiffre très important dans la Bible et surtout dans ce livre pour montrer voilà, le cycle complet que fait Dieu. Et donc là, c'est une consécration complète, totale, des sacrificateurs en 7 étapes. Alors, je n'ai pas tout lu, je vous ai listé là. Moïse va d'abord laver et habiller les sacrificateurs, ensuite les oindre, ensuite ils vont offrir le sacrifice d'expiation, ensuite ils vont offrir le sacrifice d'holocauste. Le mot holocauste, c'est ascension. Ensuite, offrir un sacrifice particulièrement réservé au sacrificateur, le sacrifice de consécration. Ensuite, il va faire l'aspersion du sang. Et ensuite, Aaron et ses fils, ils vont manger un repas de consécration. Ça va durer même 7 jours à l'entrée de la tente. Donc, ça fait beaucoup de choses. On n'était pas là. Oui, je reconnais, ça fait un peu comme les règles d'un jeu de société que nous n'avons jamais joué. Et on se demande pourquoi tout ça? Mais tout ça a été fait devant toute l'assemblée. Toute l'assemblée était convoquée pour regarder ça et il voit Moïse faire toutes ces étapes au sacrificateur. Et je pense que ça servait à montrer que il voulait inculquer cette idée forte au peuple que oui, ce n'est pas n'importe qui peut s'approcher de Dieu n'importe comment. Et je retiens 2 idées fortes dans ces différentes étapes de consécration. Tout d'abord, vous voyez un grand besoin de pureté. Beaucoup des étapes concernent la purification. Ils sont lavés à l'eau. Il fallait offrir des sacrifices, de nombreux sacrifices, notamment pour leur propre péché. L'étape 3, le sacrifice d'expiation. Ensuite, il y avait cette. Ensuite. Il y a l'aspersion du sang, désolé. Et ce sang, comme nous avons vu dans la vidéo, symbole la manière que Dieu purifie. Nous, on a tendance à penser que le sang tache et souille, et c'est vrai dans un sens physique, mais dans les rites et le symbolisme de l'Ancien Testament, le sang, puisque symbole de vie, la vie lave, la vie enlève souillure et mort. Et donc, la manière que Moïse a fait l'aspersion du sang, rappelle cette vie qui purifie. Et que voilà, ils sont, en tant que sacrificateurs, ils doivent gérer des choses pures et saintes. Dans les autres chapitres, que nous n'allons pas voir beaucoup ce matin, mais il y a d'autres, comme nous avons vu tout à l'heure, il y a d'autres chapitres qui traitent des sacrificateurs, chapitres 21 et 22. Et là, on insiste, on revient, il y a beaucoup de lois sur la nécessité des puretés, de la pureté morale des sacrificateurs. Il fallait qu'ils soient même physiquement impeccables, pas de défauts corporels. Il fallait qu'ils soient maritalement impeccable, donc des exigences sur leur mariage et leur femme. Non pas que Dieu discrimine contre les handicapés ou ne fait pas grâce dans des situations compliquées, mais tout ça c'était symbolique. Les souverains sacrificateurs, ceux qui allaient entrer en contact avec Dieu, devaient être très purs, très propres, très impeccables. Et tout cela me fait penser un peu à un chirurgien qui entre dans le bloc opératoire. Lui aussi, il a un certain nombre d'étapes par lesquelles il doit passer pour enfin opérer, pour être pur, pour qu'il n'y ait aucune souillure, aucune infection qui puisse toucher, qui entre dans le bloc opératoire. Non pas que un chirurgien est une meilleure personne, un meilleur homme qu'un autre, mais vu son travail, cette tâche, il doit passer par des étapes, tout un protocole pour être pur, pour opérer. Donc, cette cérémonie de consécration, toutes ces étapes rappellent une grande pureté nécessaire. Et je pense aussi cette cérémonie rappelait que le sacrificateur était vraiment un homme à part. Il était distinct, il était séparé du reste du peuple. Ce jour-là, Moïse n'a pas dit, OK, j'ai besoin d'un sacrificateur, qui veut être volontaire? Tout le monde peut le faire. Chacun son tour, nous sommes tous égaux. Non, le fait qu'il y avait des habits spéciaux, je rappelle, je vous montre une image des habits du sacrificateur, c'était particulier. Hein, on a lu tout ça, le tiers, le bonnet, le pectoral avec ses pierres, des habits tissés de toutes sortes de fils de manière différente. Et donc, déjà, porter ça le mettait à part. Tout le monde n'avait pas ce genre d'habit. Le fait qu'il fallait être oint, et dans le verset, ça dit qu'il était oint 7 fois. Le fait qu'il avait un sacrifice de consécration spécialement réservé pour les sacrificateurs. Le fait qu'ils ont dû passer 7 jours dans un lieu à part pour manger ce repas. Tout ça fait que le sacrificateur, il est à part. Et là, l'image qui me vient en tête, pas tant un chirurgien, mais un technicien qui doit intervenir sur un réacteur de centrale nucléaire. Là, c'est un rôle à part et on est content qu'il ait été qualifié pour faire cela. S'il y a un problème sur le réacteur, EDF ne publie pas journée portes ouvertes, ouvert à tous, chacun tente sa chance, venez tous à la fois. Non. On voudrait que celui qui entre là et qui doit intervenir sur le réacteur, on voudrait qu'il soit un expert, qu'il soit protégé, qu'il soit équipé, qu'il respecte tous les protocoles parce que on est face à une puissance dangereuse, qui pourtant apporte vie et énergie, mais ça reste une puissance dangereuse. Et il en est de même avec Dieu. Il est source de vie. Mais il reste une puissance dangereuse, avec toute cette lui-même étant très à part, très saint. Et donc, voilà, c'est pas n'importe qui était appelé à être sacrificateur. Toute cette cérémonie distinguait ce rôle. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui rappelle cela, notamment Hébreux dit, nul ne s'attribue cette dignité lui-même s'il n'est appelé de Dieu. Il fallait être choisi, oint par Dieu pour le faire. Ça le mettait à part. Encore, c'est un peu comme un ambassadeur. C'est le roi ou c'est les autorités du pays qui choisissent leur ambassadeur. C'est pas n'importe qui. C'est pas aux mains levées qu'on devient ambassadeur. Moi, je peux me dire, j'aimerais moi être l'ambassadeur russe auprès des Espagnols. J'ai pas les qualités et ça n'a aucun sens. Il faut que c'est la Russie qui décide qui est à mieux de représenter auprès de tel ou tel pays. Et idéalement, la personne parle et russe et l'espagnol, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est Dieu qui choisit son représentant, qui à la fois peut représenter Dieu dans sa pureté, sa perfection, à la fois qui est auprès des hommes. Donc nul pouvait s'attribuer cette dignité. Et là, je reviens sur les habits. Il y a une loi en Lévitique qui revient souvent, dont on parle souvent, qui interdit de porter un vêtement tissé de 2 fils différents. Alors, entre prédicateur et pasteur, c'est un peu la blague du Lévitique. Est-ce que mes habits qualifient? Non. Aujourd'hui, j'ai certainement un veste ou un pantalon qui a 2 fils différents. Et on se demande pourquoi une loi dans l'Ancien Testament, on comprend certaines lois, ne commets pas l'adultère, on commet aime ton prochain comme toi-même, aussi une loi en Lévitique, mais pourquoi des lois arbitraire comme tu ne mettras pas un vêtement tissé de 2 fils différents. On n'a peut-être pas l'explication, Mais j'ai trouvé intéressant dans un commentaire qui rappelait les habits du souverain sacrificateur étaient notamment des habits tissés de fils différents. Vous le voyez sur l'image. Et donc peut-être cette loi est une manière de dire au peuple, n'y pense même pas à te prendre pour un souverain sacrificateur ou vouloir l'imiter. Parce que dans la suite de l'histoire du juif, certains ont tenté de le faire. Certaines ont dit, mais moi aussi j'aimerais être sacrificateur. Pourquoi pas moi aussi? Un homme qui s'appelle Corée a tenté de le faire dans le livre des Nombres. Moi aussi je veux être sacrificateur. Le ministre chargé de l'égalité et de la diversité a dit que moi aussi je devrais pouvoir le faire. Ça s'est mal passé pour lui. Une autre fois, un roi plus tard, Ozias, a tenté de jouer le rôle du sacrificateur. Pourtant, il avait les privilèges d'un roi. Mais quand il a voulu jouer le rôle du sacrificateur, il est devenu lépreux pour le restant de ses jours. Donc, c'est un rôle vraiment à part que Dieu voulait marquer son peuple. Et donc, ce jour-là, tout le peuple est témoin de ce rôle spécial qui est revêtu d'une grande pureté. Toute cette cérémonie qui purifie, qui prépare le sacrificateur, et puis toute une distinction très forte, un homme à part. Et je dirais tout cela nous aide aussi à comprendre ces mots bibliques qui reviennent souvent, la sainteté, la consécration. La sainteté, justement, retient ces deux idées, d'être pur, mais aussi d'être à part, d'être séparé. Quand on dit que Dieu est saint, ça rappelle sa perfection, sa pureté face à notre imperfection, nos impuretés, d'où notre besoin de salut. Mais quand on dit que Dieu est saint, ça rappelle aussi que Dieu, en tant que Dieu, en tant que créateur, et il y a une telle distinction entre créateur et créature, entre Dieu et l'homme, que là encore, ce n'est pas n'importe qui peut s'approcher de Dieu, n'importe comment. Voilà ce que cette cérémonie devait montrer au peuple. Et maintenant, après avoir dit tout cela, il faut se rappeler, aujourd'hui, en tant que chrétien, que le rôle du sacrificateur lévitique n'existe plus. La prêtrise, le sacerdoce lévitique a pris fin avec la venue de Jésus, comme nous avons déjà vu, qui est le souverain sacrificateur ultime. Il n'y en a pas d'autre après lui, avec lui. Et déjà, la prêtrise lévitique avait de grosses lacunes, comme dit le livre aux Hébreux. On a vu, même dans cette cérémonie, les sacrificateurs, un grand défaut, c'est qu'ils étaient pécheurs eux-mêmes. Et ils devaient offrir des sacrifices pour leur propre péché. Donc, ça c'est quand même un défaut. L'autre problème, ils étaient mortels. On va voir dans le chapitre suivant que les deux fils d'Aaron meurent immédiatement. Donc, ces sacrificateurs étaient mortels. Et enfin, il faut se rappeler que tout cela n'est que symbolique. Ce sang qui est mis sur l'autel, même dans la cérémonie, à un moment, ils mettaient du sang sur l'oreille droite, sur la pouce droite et l'orteil droit. Bon, c'était pour montrer que voilà, l'ensemble de l'homme, jusque dans ses extrémités, était sanctifié. Mais du sang sur une oreille, ou sur une pouce, ou sur un orteil, ça change pas le cœur. Donc tout cela n'est que symbolique. Alors déjà là, il y a des grosses lacunes qui apparaissent. Et en tant que chrétien, nous croyons que maintenant, un seul est médiateur, un seul prêtre, c'est Jésus-Christ. Lui seul a été choisi, lui seul a été oint, c'est ce que veut dire le mot onction, oint, c'est Messie, c'est le seul Messie. Et donc c'est une attitude dangereuse de penser, déjà comme à l'époque, que moi aussi je veux me représenter, moi aussi j'ai envie de jouer ce rôle, d'être mon propre sauveur, de gérer mon éternité tout seul. Ça c'est une attitude dangereuse. C'est aussi une grave erreur, il me semble, de considérer les responsables d'église, les pasteurs, comme des prêtres, comme des sacrificateurs. Ce rôle, les pasteurs de nos jours ne sont pas l'équivalent des sacrificateurs de l'Ancien Testament. L'équivalent, c'est Jésus, Jésus seul. Et donc, il serait dangereux de penser que les responsables d'église, les pasteurs, ont un meilleur accès auprès de Dieu ou agissent comme des médiateurs. Ou ou même se comporter ainsi, des habits spéciaux, ça pourrait porter confusion à cette réalité que Christ seul est notre souverain sacrificateur. Après, dans un autre sens, la Bible du Nouveau Testament dit que tous les chrétiens sont maintenant les sacrificateurs. Tous deviennent des prêtres. Dans le sens que nous avons tous accès auprès de Dieu, nous pouvons tous entrer dans sa présence, nous pouvons tous le prier directement. Donc quand on parle de sacrificateur, soit on parle d'un seul Jésus-Christ, soit on parle de tous les chrétiens. Mais on veut se garder de faire une classe spéciale des chrétiens qui aurait un meilleur accès auprès de Dieu que d'autres. Non, nous sommes tous consacrés et quand on revoit ces étapes, finalement, nous sommes tous appelés à vivre cela dans notre quotidien de manière spirituelle. Être lavé, être revêtu de la justice de Christ. Nous avons tous reçu une onction qui est le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la vérité. Et nous avons tous cru dans le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre des vies pures. Et puis comme nous avons fait ce matin, nous voulons vivre dans la communion avec Dieu et un repas symbolise cette manière de vivre en communion avec Dieu. Et ça, c'est le quotidien de tous les chrétiens que nous pouvons vivre. Alors voilà pour l'inauguration des sacrificateurs. Maintenant, j'aimerais voir l'inauguration du culte, ce culte inaugural en chapitre 9. Je vous lis quelques versets, pas tout le chapitre. Chapitre 9, versets 1 à 4. Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'un an et sans défaut, pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Et puis, à la fin du chapitre, on va relire les versets 22 jusqu'au fin du chapitre qui termine cette cérémonie. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple la vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Donc ce chapitre, chapitre 9, termine avec un des moments les plus forts dans l'histoire d'Israël, les plus forts, les plus glorieux. Oui, on a vu chapitre 8, à quel point Dieu est à part, il fallait ses sacrificateurs, avec toute cette consécration pour s'approcher de lui, pour représenter le peuple. Mais le but, c'est que Dieu soit proche. C'est justement le rôle d'un médiateur, le rôle d'un intercesseur, c'est de rapprocher deux parties. Et ce qui va se passer dans ce culte, alors regardons un peu le déroulement du culte. Je pense que le verset 7 et le verset 22 sont des résumés du culte, chacun à sa manière, l'un avant et l'autre après. Moïse dit à Aaron, verset 7, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste et fais l'expiation pour toi. » Et ensuite pour le peuple, offre aussi le sacrifice du peuple et fait l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Donc cela rappelle que dans cette cérémonie, comme tout, les sacrificateurs devaient déjà agir pour leur propre cas, leur propre péché, et puis ensuite ils représentaient tout le peuple. Et puis le 22, je pense, nous donne un résumé de l'ensemble. Verset 22, « Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit, puis il descendit. » Il finit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Alors rappelez-vous les règles du jeu de société. On a vu dans les chapitres 1 à 7 plein de sacrifices. Il y en a 5 plus un sixième, c'est celui des sacrificateurs. Moi, quand je lis ces chapitres 1 à 7, c'est difficile à savoir comment ils s'organisent, comment se passe-t-il. Je rappelle les sacrifices qu'on a vus la semaine dernière, que Vincent avait commenté. Il y a 6 sacrifices, C'est intéressant. Dans un livre qui aime le chiffre 7, c'est comme s'il en manque un, mais nous l'avons un jour en Christ. Mais il y avait l'Holocauste, le mot littéralement c'est ascension, le sacrifice d'ascension, un sacrifice qui monte. L'offrande, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, ces deux se ressemblaient fortement pour les péchés. Le sacrifice de la consécration, c'était celui qui est réservé uniquement à l'inauguration des prêtres, des sacrificateurs. Et puis le sacrifice d'action de grâce, c'est celui que on pouvait manger une partie, on l'offrait, mais on le mangeait soi-même en présence du tabernacle. Donc, oui, on voit tout ça, mais c'est comme les règles d'un jeu de société. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Dans quel ordre? Comment? Eh bien, ce culte que nous vivons ici en chapitre 9 nous rappelle comment il faisait, comment il vivait. Donc, le culte typique, a priori, c'est le culte d'inauguration. On apprend en verset 22 qu'il a offert d'abord le sacrifice d'expiation, ensuite le sacrifice d'ascension qui était accompagné de l'offrande, d'après verset 17, et enfin le sacrifice d'action de grâce. Le mot veut dire paix, shalom, le sacrifice d'action de grâce. Et ça, c'est intéressant, on médite ce culte, cette liturgie-là, cet ordre. D'abord, on règle le problème du péché, l'expiation. Ensuite, on se consacre à Dieu, on veut monter jusqu'à dans sa présence, on veut être avec lui, on se donne entièrement avec lui, comme cet holocauste, c'était le seul sacrifice qui était entièrement brûlé, pour représenter que nous voulons nous donner entièrement à Dieu, et cette fumée qui monte, qui est une odeur agréable à Dieu, nous voulons monter jusqu'à Dieu. Et puis, une fois qu'on est chez Dieu, avec Dieu, on prend un repas avec lui, on vit dans la paix et dans la reconnaissance. Et ce cycle-là, c'est le parcours de l'évangile, c'est le parcours du salut. Quelqu'un comprend qu'il a besoin du pardon de ses péchés, il passe par le sacrifice de Christ, il se donne entièrement à Dieu, il se consacre à Dieu, il donne son cœur à Jésus, toutes ces choses. Et puis le reste, on fixe nos regards sur les choses, nos pensées sur les choses d'en haut. Et puis on vit dans la communion avec Dieu, on recherche l'union avec lui, dans la paix, dans la reconnaissance. Et ce formule-là, c'est ce qu'ils vivaient dans leur premier culte, mais aussi c'est notre vie quotidienne chrétienne pour marcher dans la foi. C'est revenir souvent à penser que Christ est le sacrifice ultime. Je me consacre de nouveau, je veux me sanctifier, je veux me consacrer à Dieu et sa volonté. Et puis je jouis d'une communion avec lui. Et si cette communion est brisée, eh bien, je recommence le cycle et je rappelle que Christ est mort pour mes péchés, que je veux me donner à lui de nouveau, je veux monter jusqu'au ciel, c'est mon aspiration de mon cœur. Et là, je retrouve la paix et la reconnaissance. Ça, c'est le culte lévitique, mais on n'est pas loin du culte chrétien. Eux, c'était lié à des temps spéciaux, à un lieu spécial, mais nous, c'est tous les jours que nous pouvons offrir un culte spirituel de la même manière. Alors c'est vrai que Lévitique n'est peut-être pas votre livre préféré de la Bible, mais mes jeunes diraient, oui, nous on aime les livres où il y a beaucoup d'action. Et donc ce livre, il y a pas, comme d'autres, il n'y a pas d'action. Où est l'action? Mais si, l'action est ici à la fin du chapitre 9. Regardez verset 24. À la fin de ce culte, où ils font tout ce que comme Dieu avait ordonné de faire, verset 23, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste des graisses. À la fin de ce culte, deux hommes peuvent entrer dans la tente. Ils peuvent entrer chez Dieu. Et puis Dieu descend en quelque sorte, il vient, il apparaît à tout le peuple. Et par ses représentants, il est béni. Et puis, ce feu sort et consume l'offrande. Là, c'est de l'action. Il n'y a que deux ou trois fois dans tout l'Ancien Testament où Dieu est si proche, si visible à tout le peuple avec cette gloire visible. Donc, c'est vraiment un moment fort pour Israël. C'est comme si, avec ce culte inaugural, une nouvelle étape commence pour le peuple. Dieu est désormais présent, quoi. Notre tabernacle est inauguré, notre culte est inauguré, et Dieu, nous, on peut entrer par le biais de nos représentants, on peut entrer chez Dieu, et Dieu a pris résidence chez lui, au milieu de nous, et on a vu sa gloire, c'est splendide, c'est magnifique. Et le livre de Lévitique veut montrer cette nouvelle étape, cette action forte que Dieu vient chez son peuple. Je vous montre ça juste avec quelques versets. Le dernier verset de Exode disait que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre. Il y avait de la gloire, il venait de construire le tabernacle, l'inaugurer, mais Moïse ne pouvait pas entrer. Et du coup, le premier verset de Lévitique, l'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre. Mais ici, Lévitique chapitre 9, verset 23, Moïse et Aaron entrent dans la tente. C'est ça la chose merveilleuse dans cette. Ils entrent dans la maison de Dieu, dans la tente avec Dieu. Et du coup, le premier verset de Nombre, le livre suivant, dit l'Éternel parla à Moïse dans le désert, dans la tente de la rencontre. Donc, visiblement, on veut nous montrer que maintenant Dieu est là. Et le représentant peut entrer chez lui. Grâce au rôle du sacrificateur, grâce à tout le reste aussi, le tabernacle, le culte, Dieu est proche et il vient pour bénir son peuple. Tout ça s'est déroulé le huitième jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. C'est une semaine de sept jours, le huitième jour, c'est le premier jour. Le premier jour de la semaine, ils vivent ce culte. Et lors de cette inauguration, on peut dire que le ciel et la terre se rejoignent, comme nous avons vu dans la vidéo, les quelques moments dans la Bible où le ciel et la terre se rejoignent, c'est les moments phares de la Bible. Donc ce premier jour de la semaine, par le rôle du souverain sacrificateur, le ciel et la terre se rejoignent. Mais maintenant, mauvaise nouvelle, chapitre suivant. Nous allons voir ça semaine. Catastrophe immédiate. Les deux fils d'Aaron meurent frappés sur le coup. Alors, ça ne semble pas avoir vraiment marché, cette affaire. Il va falloir à quelqu'un bien mieux qu'Aaron, bien mieux que ses fils, sa descendance, pour vraiment nous représenter. Et mais c'est ce que nous célébrons chaque huitième jour, chaque dimanche. Nous célébrons la manière que Jésus a ouvert l'accès à la gloire de Dieu, la manière que lui, il a fait rejoindre le ciel et la terre. Nous célébrons sa résurrection qui a inauguré une nouvelle étape pour notre salut, qui nous a donné un salut parfait. Et ce matin, si Jésus est ressuscité, comme nous le croyons, s'il est notre souverain sacrificateur, ça veut dire qu'il prie pour nous, il nous bénit. C'était le rôle des sacrificateurs. Une fois qu'ils avaient fini ce culte, ils ont béni le peuple parce que tout a bien marché. Eh bien, si Jésus est notre souverain sacrificateur, il nous bénit, il prie pour nous, il intercède pour nous en permanence. Ça veut dire que vous abordez cette semaine avec sa bénédiction, avec ses prières. Qu'est-ce qui est plus fort, plus intéressant que cela? La réflexion du Nouveau Testament, et je termine avec cela, c'est que puisque Jésus-Christ est ressuscité, il ne meurt pas comme les Lévites, puisque Jésus est ressuscité, c'est qu'il vit toujours pour prier pour nous, pour intercéder pour nous. Ça veut dire que tous les jours et pour toute votre vie, vous avez un sacrificateur qui veut vous bénir, qui peut vous bénir, qui va vous bénir, et vous êtes fort pour avancer dans la vie avec un tel représentant. Nous allons terminer en priant.